Le journal, Sébastien Berriot.
Bonsoir. Dans ce journal, on ira à Washington où Donald Trump, sous pression, a fini par rectifier le tir après les événements de Charlottesville. Événement que le président américain a finalement qualifié de raciste. Il a également condamné de manière très ferme les suprémacistes blancs ainsi que les néo-nazis. Explication aux États-Unis de Marco Walter. La piste djihadiste privilégiée par les autorités du Burkina Faso après l'attaque d'un restaurant ce matin à Ouagadougou. Le bilan est de 18 morts, dont un Français. Nous rejoindrons notre correspondante au Burkina, Fanny Noaro. La Tunisie va-t-elle briser un tabou dans le monde musulman? Le président Essebsi lance le débat sur l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Mais nous verrons que le chef de l'État risque de se heurter à de fortes réticences, notamment de la part des islamistes. Et puis en France, c'était une tradition au mois d'août, les universités d'été des partis politiques. Mais la présidentielle et les législatives ont laissé des traces. Pas d'université cette année pour plusieurs grands partis, notamment le PS, qui n'a plus les moyens. Donald Trump a donc fini par reculer. On lui reprochait, y compris dans son propre camp, son manque de condamnation et son silence très ambigu après les événements racistes de Charlottesville ce week-end. Ce soir, le président américain a changé de ton lors d'une brève allocution prononcée depuis la Maison-Blanche. Donald Trump a condamné les manifestations, dénonçant le racisme et l'activité des groupes suprémacistes. Des propos assez fermes, mais qui n'ont pas convaincu tout le monde. Aux États-Unis, le récit de Marco Walter.
Il aura donc fallu attendre quasiment 48 heures pour voir Donald Trump clarifier sa position. Après une rencontre à la Maison-Blanche avec son ministre de la Justice et le nouveau directeur du FBI, le président américain a finalement déclaré ce qu'une grande partie des Américains attendait de lui.
Racism is evil. Le racisme est mal et ceux qui causent de la violence au nom du racisme sont des criminels et des voyous, dont le Ku Klux Klan, les néo-nazis, les suprémacistes blancs et d'autres groupes haineux qui sont répugnants et contraires à tout ce que nous chérissons en tant qu'Américains.
Donald Trump a lu sa déclaration mot pour mot, sans grande émotion et loin de la vague d'indignation qui a traversé le pays ce week-end. Puis il est parti en ignorant les journalistes. La question de sa sincérité se pose. Quelques heures avant de prendre la parole, le président tweetait encore sur l'économie et la Chine, un peu comme si les événements de Virginie n'avaient pas eu lieu. Que le président peine à faire passer ses réformes est une chose, disait un commentateur, mais qu'il ait autant de mal à simplement dénoncer le racisme en est une autre. Là, il faut être à la hauteur, surtout lorsque l'on est président des États-Unis.
Et pendant ce temps, le vice-président américain Mike Pence, lui, était en Colombie, première étape d'une tournée en Amérique latine, consacrée notamment à la crise au Venezuela. Les États-Unis qui, a-t-il dit, veulent privilégier une solution pacifique pour faire face au président Maduro, alors que Donald Trump, lui, avait dans un premier temps brandi la menace d'une intervention militaire contre le régime de Caracas. En France, on vient d'apprendre qu'une voiture a foncé intentionnellement sur la terrasse d'une pizzeria. Ce soir, ça s'est passé dans le département de la Seine-et-Marne. Il y aurait un mort, une fillette. C'est la gendarmerie, l'agence France-Presse qui donne cette information en citant la gendarmerie donc de Seine-et-Marne. Une fillette de 5 ans aurait été tuée. Il y aurait également 5 blessés. Et le chauffeur de la voiture aurait été interpellé. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre au Burkina Faso pour tenter d'identifier les terroristes qui ont attaqué un café-restaurant de Ouagadougou ce matin. Le bilan fourni par les autorités fait état de 18 morts, dont plusieurs ressortissants étrangers. Il y a notamment un Français qui a été tué. Le président Macron s'est entretenu tout à l'heure au téléphone avec son homologue burkinabé. Appel commun à lutter contre le terrorisme au Sahel. La procureure, elle, a fait le point tout à l'heure. Pour le moment, il n'y a pas de revendications, mais les groupes djihadistes sont largement montrés du doigt. À Ouagadougou, précision de Fanny Noaro.
La procureure a confirmé l'arrivée des deux jeunes assaillants à moto, des assaillants qui avaient repéré les lieux. Ils se sont facilement déplacés à l'intérieur et ils savaient où aller, a précisé la procureure. Un mode opératoire très similaire à celui utilisé lors de l'attentat de janvier 2016, à quelques centaines de mètres de là. 15 des 18 victimes décédées ont pu être identifiées, beaucoup de Burkinabés, mais aussi un Français, une Canadienne, au total 8 nationalités différentes. Un enfant de 15 ans fait également partie de ces victimes. On dénombre aussi une 20aine de blessés. Une enquête a été ouverte pour notamment association de malfaiteurs, assassinat et complicité d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste. Un deuil national de 72 heures a été décrété alors que ce mardi, le président burkinabé Roch Kabore reçoit son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta à Ouagadougou. Le Mali, pays frontalier également frappé par le terrorisme. Nul doute que le sujet sera au programme de leurs échanges.
En Tunisie, le président Essebsi a décidé de s'attaquer à un chantier difficile, la question de l'égalité homme-femme en matière d'héritage. Le chef de l'État a lancé le débat hier à l'occasion de la fête de la femme qui est célébrée chaque année en Tunisie depuis 1956. La Tunisie qui est considérée comme un pays modèle en matière de droits féminins dans le monde arabe. Mais la question de l'héritage est très sensible. Le principe de l'inégalité entre hommes et femmes est prévu par le Coran. Et le projet du chef de l'État est déjà très critiqué. Valérie Crova.
Le président Essebsi compte avancer à tout petit pas sur cette question qui est effectivement très sensible en Tunisie, comme dans tous les pays musulmans. Le chef de l'État souhaite d'abord créer une commission qui sera chargée de réfléchir à un nouveau code des libertés individuelles. Rien que la mise en place d'une telle commission, c'est un pas de géant que franchit le chef de l'État. Il est vrai que la Tunisie, sous Bourguiba, également pendant la période Ben Ali, a toujours été pionnière dans le monde arabe en matière de droits des femmes, mais pas sur cette question de l'héritage qui reste un tabou dans la société tunisienne. En 1956, en faisant adopter le fameux code du statut personnel qui avait mis fin notamment à la polygamie, le président Bourguiba avait échoué à intégrer dans le texte le principe d'égalité en matière de succession. Comme en 1956, le président Essebsi va se retrouver lui aussi confronté à de fortes résistances dans les milieux conservateurs et également au sein de la population. Le fait de toucher au Coran reste très impopulaire. Un député du parti islamiste Ennahda a donné le ton ce matin en qualifiant la proposition du chef de l'État de dangereuse. Le bâtonnier de l'Ordre national des notaires, lui, a appelé le moufti de la République à émettre une fatwa pour dire si cette évolution est conforme ou non à la religion. Du côté des associations qui défendent les droits de la femme, c'est la prudence. On attend de voir si les propos du chef de l'État se traduiront dans les faits ou bien s'ils resteront au stade des promesses avant la présidentielle de 2019. Le président Essebsi s'est en tout cas montré très offensif hier lors de son discours au palais de Carthage. Outre la question de l'héritage, il a également annoncé vouloir donner aux femmes tunisiennes qui le souhaitent la possibilité de se marier avec des non-musulmans.
L'année électorale que la France vient de connaître a bouleversé le paysage politique et ce changement est perceptible jusqu'au cœur de l'été. La plupart des partis politiques avaient pour habitude d'organiser leurs universités d'été, rendez-vous traditionnel avant la rentrée politique. Mais certaines grandes formations ont dû renoncer à cette habitude pour des raisons financières et aussi politiques. Explication de David Ravier.
Seuls les grands vainqueurs des élections législatives ont les reins assez solides pour réaliser des universités politiques cet été. Il y a bien sûr la France Insoumise et la République En Marche qui ont déjà lancé leur caravane partout en France au début du mois. La formation de Jean-Luc Mélenchon doit lancer sa première université d'été dans 2 semaines, tandis que la République En Marche a déjà fait sa convention le mois dernier. De toutes les formations politiques, c'est le Parti Socialiste qui ressort le plus affaibli. Après ses mauvais résultats à l'élection présidentielle et aux législatives, la dotation versée par l'État au PS va passer de 25 à 7 millions d'euros. Du coup, pour la deuxième année consécutive, le PS organisera un séminaire de rentrée à la fin du mois à la place de sa traditionnelle université d'été de La Rochelle. Enfin, chez les Républicains, s'il n'y a pas d'université d'été à proprement parler, ce n'est pas à cause d'un manque d'argent, mais plus pour des raisons de guerre interne à quelques mois des élections pour la présidence du parti. Résultat, à la fin du mois, les Fillonistes feront leur rentrée à la Baule, les Sarkozystes au Touquet, les Juppéistes à Bordeaux et le groupe des Constructifs ira à Trouville. Chacun fera donc sa rentrée de son côté et tant pis si le sentiment d'unité n'est pas au rendez-vous.
En Allemagne, Angela Merkel reconnaît pour la première fois que la fin du diesel est inéluctable. Pas de calendrier précis, mais la chancelière affirme que l'Allemagne devra elle aussi interdire à terme la circulation de nouveaux véhicules diesel. Angela Merkel qui cite l'exemple du Royaume-Uni et de la France qui veulent interdire les véhicules à combustion interne d'ici 2040. Je vous redonne l'information que je vous donnais tout à l'heure, à savoir donc dans le département de la Seine-et-Marne, une voiture qui a foncé renversée sur la terrasse d'une pizzeria ce soir. Deux agences de presse citant la gendarmerie donnent cette information. Il y a un mort, une fillette qui est donc décédée et cinq blessés. Et le conducteur de la voiture aurait été arrêté. Les prévisions de Météo France pour la journée de demain. Des nuages sur une bonne partie du pays. Température l'après-midi comprise entre 18 degrés en Normandie et 31 en Corse.